La Voix des Livres, votre émission de lecture,
présentée par Jocide,
sur Radio U.
Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Chapitre 5. Deux jours plus tard, Giovanni Drogo fut pour la première fois de service à la 3e redoute. À 6 heures du soir, les 7 détachements de garde se rangèrent dans la cour. 3 pour le fort proprement dit, 4 pour les redoutes latérales. Le 8e détachement, celui de la nouvelle redoute, était parti avant les autres parce qu'il y avait un long chemin à parcourir. Le sergent-major Tronc, vieux gradé du fort, avait amené les 28 hommes destinés à la 3e redoute, plus sa trompette, ce qui faisait 29. Ils appartenaient tous à la 2e compagnie, celle du capitaine Ortiz, à laquelle Giovanni avait été affecté. Drogo en prit le commandement et dégaina son épée. Les 7 gardes montantes étaient alignés au cordeau, et d'une fenêtre, selon la tradition, le colonel commandant la garnison les observait. Sur la terre jaune de la cour, les 7 détachements formaient un dessin noir, beau à voir. Le ciel, balayé par le vent, resplendissait au-dessus des remparts que les derniers rayons du soleil coupaient en diagonale. Un soir de septembre, le lieutenant-colonel Nicolosi, commandant en second, franchit la porte de l'état-major. Une vieille blessure le faisait boiter et il s'appuyait sur son épée. Ce jour-là, le gigantesque capitaine Monti était de service pour l'inspection. Sa voix rauque cria le commandement et tous les soldats, avec un ensemble parfait, présentèrent les armes dans un puissant cliquetis métallique. Il se fit un vaste silence. Alors, l'un après l'autre, les trompettes des 7 détachements jouèrent les sonneries d'usage. C'étaient les fameuses trompettes d'argent du fort Bastiani, au cordon de soie rouge et or, d'où pendait un grand écusson. Leur voix pure, s'épanouissant dans le ciel, faisait vibrer le mur immobile des baïonnettes, avec une vague sonorité de cloches. Les soldats étaient semblables à des statues, leurs visages militairement inexpressifs. Non, ils ne se préparaient certes pas au monotone tour de garde, avec ces regards de héros, on eût certes dit qu'ils allaient attendre l'ennemi. La dernière note resta longtemps suspendue dans l'air, renvoyée par les lointains remparts. Les baïonnettes scintillèrent encore un bref instant, brillantes contre le ciel profond, puis elles furent englouties dans les rangs, s'éteignant simultanément. Le colonel avait disparu de la fenêtre. Les 7 détachements s'irradièrent vers leurs destinations respectives et leurs pas résonnèrent à travers les labyrinthes du fort. Une heure plus tard, Giovanni Drogo était sur la terrasse supérieure de la 3e redoute, à l'endroit même d'où, le soir précédent, il avait regardé vers le septentrion. Hier, il était venu fureter comme un voyageur de passage, mais à présent, la redoute tout entière et 100 mètres de rempart dépendaient de lui seul. 4 artilleurs sous ses ordres à l'intérieur du fortin s'occupaient des 2 canons pointés vers le fond de la vallée. 3 sentinelles se partageaient le chemin de ronde de la redoute. 4 autres étaient échelonnés tous les 25 mètres le long du mur d'enceinte vers la droite. La relève de la garde descendante s'était déroulée avec une précision méticuleuse sous les yeux du sergent-major Tronc, spécialiste des règlements. Il y avait 22 ans que Tronc était au fort, et maintenant il n'en bougeait plus, même pendant ses permissions. Nul n'en connaissait aussi bien que lui tous les recoins. Souvent, la nuit, les officiers le rencontraient en train de faire une ronde dans l'obscurité la plus profonde, sans la moindre lumière. Quand il était de service, les sentinelles n'abandonnaient pas un seul instant leurs fusils, ne s'appuyaient pas au mur, et évitaient même de s'arrêter, car les arrêts n'étaient tolérés qu'exceptionnellement. De toute la nuit, Tronc ne dormait pas et rôdait à pas silencieux sur les chemins de ronde, faisant sursauter les sentinelles. « Qui vive ? Qui vive ?» demandaient les sentinelles en étreignant leurs fusils. « Grotta !» répondait le sergent-major. « Gregorio !» disait la sentinelle. Pratiquement, les officiers et les sous-officiers de garde parcouraient sans formalité le chemin de ronde de leurs bastions respectifs. Les soldats les connaissaient bien de vue et l'échange du mot de passe eût semblé ridicule. Il n'y avait qu'avec Tronc que les soldats suivaient à la lettre le règlement. Tronc n'était pas grand, il était maigre, un visage de petit vieux, le crâne rasé. Il parlait très peu, même avec ses collègues. Et pendant ses heures de liberté, il préférait rester seul à étudier la musique. Il avait une passion pour celle-ci, si bien que le chef de la clique, le maréchal des logis Espina, était peut-être son seul ami. Il possédait un bel accordéon, mais n'en jouait presque jamais. Le bruit courait néanmoins que c'était un virtuose. Il étudiait l'harmonie et l'on disait qu'il avait composé plusieurs marches militaires. Mais au fond, on ne savait rien de précis. Il n'y avait pas de danger que pendant le service, il se mit à siffler comme il avait l'habitude de le faire quand il était de repos. Tout au plus rôdait-il le long des créneaux, scrutant la vallée du Nord, à la recherche de Dieu sait quoi. À présent, il était à côté de Drogo et lui montrait le chemin muletier qui, longeant d'abruptes parois, menait à la nouvelle redoute. « Voici la garde descendante, » disait Tronc, entendant l'index de la main droite. Mais dans la pénombre du crépuscule, Drogo ne parvint pas à rien distinguer. Le sergent-major secoua la tête. « Qu'y a-t-il ? » demanda Drogo. « Il y a que comme ça, le service ne va pas, » répondit Tronc. « Je l'ai toujours dit, c'est de la folie. »« Mais que s'est-il passé ?»« Comme ça, le service ne va pas, » répéta Tronc. « Il devrait faire d'abord la relève de la garde à la nouvelle redoute. Mais le colonel ne veut pas. » Giovanni le regarda stupéfait. Était-il possible que Tronc se permît de critiquer le colonel ?« Le colonel, » continua le sergent-major avec conviction et avec une profonde gravité, et certes point pour rectifier ses dernières paroles, le colonel a parfaitement raison de son point de vue. Seulement, personne ne lui a expliqué le danger. « Le danger ?» interrogea Drogo qui se demandait quel danger il pouvait bien y avoir à se rendre du fort à la nouvelle redoute par ce sentier commode dans un endroit aussi désert. « Le danger, » répéta Tronc, « un jour ou l'autre, avec cette obscurité, il arrivera quelque chose. » « Et que devrait-on faire ?» demanda pour être aimable Drogo que toute cette histoire n'intéressait que très relativement. « Jadis, » fit le sergent-major, trop heureux de pouvoir faire montre de son savoir, « jadis, à la nouvelle redoute, la relève s'effectuait 2 heures avant celle du fort, et toujours 2 jours, même en hiver. Et puis le système des mots de passe était simplifié. Il fallait le mot pour pénétrer dans la redoute, et il fallait celui qui allait servir pour la journée de garde, et le retour au fort. 2 mots suffisaient. Quand la garde descendante était de retour au fort, la garde, ici, n'avait pas encore été relevée et le mot était encore valable. « Oui, je comprends, » murmura Drogo, renonçant à le suivre. « Mais ensuite, » poursuivit Tronc, « ils ont eu peur. Il est imprudent, disait-il, de laisser en circulation, hors des limites du fort, tant de soldats qui connaissent le mot de passe. On ne sait jamais. » disait-il, il est plus facile qu'un soldat sur 50 trahisse qu'un seul officier. « Eh oui !» acquiesça Drogo. Alors ils se sont dit, il vaut mieux que le commandant soit seul à connaître le mot de passe. De sorte que maintenant, il quitte le fort 3 quarts d'heure avant la relève de la garde. Prenons aujourd'hui, par exemple. La relève générale s'est effectuée à 6 heures. La garde pour la nouvelle redoute est partie d'ici à 5h15 et est arrivée là-bas à 6 heures juste. Pour sortir du fort, cette garde n'a pas besoin de mot de passe, puisqu'elle est un détachement encadré. Pour pénétrer dans la redoute, il fallait le mot de passe d'hier. Et ce mot, seul le connaissait l'officier. Une fois la relève effectuée à la redoute, le mot de passe d'aujourd'hui entre en vigueur. Et celui-ci aussi, l'officier est seul à le connaître. Et cela dure 24 heures jusqu'à ce que la garde montante arrive pour la relève. Demain soir, lorsque les soldats reviendront, ils peuvent être là vers les 6h30. Au retour, la route est moins fatigante. Le mot de passe au fort sera encore changé. Et de la sorte, il faut un 3e mot de passe. L'officier doit donc en savoir 3. Celui qui sert pour l'aller, celui que l'on utilise pendant la garde et le 3e pour le retour. Toutes ces complications pour que les soldats ignorent le mot pendant qu'ils sont en route. Et je dis moi, continuait Tronc, sans se soucier de savoir si Drogo lui prêtait attention. « Je dis, moi, si l'officier est seul à connaître le mot de passe et que, admettons, il se trouve mal en route, que feront les soldats ? Ils ne pourront pas l'obliger à parler. Et ils ne peuvent non plus revenir à leur point de départ, parce que pendant ce temps-là aussi, le mot a été changé. Est-ce qu'on ne pense pas à cela? Et puis eux, qui tiennent tellement tout secret, ne se rendent-ils pas compte qu'avec ce système, il leur faut 3 mots de passe au lieu de 2 et que le troisième, celui pour rentrer le lendemain dans le fort, est mis en circulation plus de 24 heures à l'avance? Quoi qu'il arrive, ils sont obligés de conserver ce dernier mot, sinon la garde ne pourrait plus rentrer. Mais, objecta Drogo, on les reconnaît très bien, non? On verrait bien que c'est la garde descendante. Tronc regarda le lieutenant. « Mon lieutenant, dit-il d'un ton un peu supérieur, ceci est impossible. Il y a le règlement du fort. Sans le mot de passe, personne venant du côté du nord, personne, qui que ce soit, ne peut pénétrer dans le fort. » Mais alors, dit Drogo, agacé par cette absurde rigueur, « ne serait-il pas plus simple d'avoir un mot de passe spécial pour la nouvelle redoute ?» La relève s'effectue d'abord et le mot pour entrer est communiqué seulement à l'officier. De la sorte, les soldats ne savent rien. « Bien sûr, fit le sous-officier presque triomphant, comme s'il eût attendu cette objection. Ce serait probablement la meilleure solution. Mais il faudrait changer le règlement. Il faudrait une loi. » Le règlement dit, Tronc prit la voix qu'il avait pour la théorie, « Le mot de passe est valable 24 heures, d'une relève de la garde à l'autre. Un seul mot de passe est mis en vigueur dans le fort et ses dépendances. » Le règlement précise ses dépendances, c'est clair. Il n'y a pas moyen de tricher. Mais autrefois, fit Drogo, qui au début n'avait pas été très attentif, la relève ne s'effectuait-elle pas d'abord à la nouvelle redoute? Évidemment, s'exclama Tronc, puis se corrigea. Oui, mon lieutenant, il y a 2 ans seulement qu'on emploie ce système. Avant, c'était beaucoup mieux. Le sous-officier se tut. Drogo le regardait épouvanté. Que restait-il de ce soldat au bout de 22 ans passés au fort? Tronc se souvenait-il encore qu'il existait quelque part dans le monde des millions d'hommes semblables à lui-même, qui ne portaient pas l'uniforme et qui circulaient librement dans la ville, et qui pouvaient, la nuit, selon leur bon plaisir, aller au lit, au théâtre ou au cabaret? Non, il suffisait de regarder Tronc pour comprendre qu'il ne se rappelait plus rien des autres hommes, que pour lui n'existait plus que le fort et ses odieux règlements. Tronc avait oublié le doux son de la voix des jeunes filles. Il avait oublié comment sont faits les jardins, les fleuves, les arbres, autres que les maigres et rares buissons disséminés aux alentours du fort. Tronc, il est vrai, regardait vers le septentrion, mais point dans le même esprit que Drogo. Lui, il regardait fixement le sentier qui menait à la nouvelle redoute, le fossé et la contrescarpe. Il explorait du regard les voies d'accès possibles et non point les roches sauvages, ni ce triangle de plaines mystérieux, ni encore moins les blancs nuages qui naviguaient dans le ciel déjà presque nocturne. Ainsi, tandis que la nuit venait, le désir de fuir s'emparait de nouveau de Drogo. Pourquoi n'était-il pas parti tout de suite? Se reprochait-il. Pourquoi avait-il cédé à la mielleuse diplomatie de Mati? Maintenant, il était obligé d'attendre que 4 mois se fussent écoulés. 4 mois, 120 interminables journées, dont la moitié se passerait à monter la garde sur les remparts. Il lui sembla qu'il se trouvait parmi des hommes d'une autre race, sur une terre étrangère, dans un monde dur et ingrat. Il regarda autour de lui, reconnut Tronc qui, immobile, observait les sentinelles. Chapitre 6. On était déjà en pleine nuit. Drogo était assis dans la chambre nue de la redoute et s'était fait monter du papier, de l'encre et une plume pour écrire. « Chère maman, commença-t-il d'écrire, et immédiatement il se sentit comme lorsqu'il était enfant, tout seul, à la lueur d'une lanterne, maintenant que personne ne le voyait au cœur de ce fort inconnu de lui, loin de sa maison, loin de toutes les choses familières et bonnes. Il avait le sentiment que c'était une consolation que de pouvoir au moins ouvrir complètement son cœur. Bien sûr, avec les autres, avec ses collègues officiers, il lui fallait se montrer un homme, rire avec eux, et raconter des histoires de soldats et des histoires de femmes, aussi effrontées les unes que les autres. À qui d'autre, sinon à sa mère, pouvait-il dire la vérité? Et la vérité de Drogo, ce soir-là, n'était pas une vérité de soldat courageux. Elle n'était probablement pas digne de l'austère Fort Bastiani. Ses camarades eussent ri de cette vérité qui était la fatigue du voyage, le caractère opprimant de ces sombres remparts, le sentiment de se trouver dans une solitude totale. « Je suis arrivée épuisée après 2 jours de route. » Voilà ce qu'il allait lui écrire. « Et une fois arrivée, j'ai appris que si je le voulais, je pouvais retourner en ville. Le fort est lugubre. Il n'y a aucune localité à proximité. Il n'y a aucune distraction et aucune gaieté. Voilà ce qu'il allait lui écrire. Mais Drogo se souvint de sa mère. À cette heure-ci, elle pensait justement à lui et se consolait en songeant que son fils passait agréablement son temps au milieu d'amis sympathiques et peut-être, sait-on jamais, en aimable compagnie. Elle se l'imaginait certainement satisfait et serein. « Chère maman, écrivit la main de Drogo, je suis arrivée avant-hier, après un excellent voyage. Le fort est grandiose. Oh, lui faire comprendre la désolation de ses remparts, cette vague atmosphère de punition et d'exil, ces hommes étrangers et absurdes. Au lieu de ça, les officiers d'ici m'ont accueilli affectueusement, écrivait-il. L'adjudant-major lui-même a été très gentil et m'a laissé entièrement libre de retourner en ville si je le voulais. Et pourtant, peut-être qu'à ce moment même, sa mère allait et venait dans sa chambre à lui, dans sa chambre abandonnée, ouvrant un tiroir, rangeant certains de ses vieux habits, les livres, le bureau. Elle les avait déjà rangés plus d'une fois, mais il lui semblait ainsi retrouver un peu de la présence vivante de son fils, comme s'il allait rentrer, ainsi que de coutume avant dîner. Il semblait à Giovanni qu'il entendait le bruit familier des petits pas inquiets de sa mère, de ces petits pas que l'on eût dit toujours anxieux pour quelqu'un. Comment aurait-il eu le courage de l'attrister ? S'il avait été à côté d'elle, dans la même pièce, tous les deux réunis sous la lampe familière, alors oui, Giovanni lui eût tout dit, et elle n'aurait pas eu le temps de s'attrister, parce qu'il aurait été près d'elle, et que maintenant le plus dur était passé. Mais comme ceci, de loin, par lettre, assis près d'elle devant la cheminée dans la rassurante tranquillité de la vieille maison, alors oui, il lui parlait du commandant Matti et de ses insidieuses flatteries, des manies de Trunk. Il lui eut dit combien stupidement il avait accepté de rester 4 mois, et probablement, ils auraient tous les deux ri de cela. Mais comment faire d'aussi loin ? Et pourtant, écrivait Drogo, j'ai cru bien faire, et pour moi-même, et pour ma carrière, de rester quelque temps ici. Et puis mes camarades sont très sympathiques, le service est facile et pas fatigant. Et sa chambre, le bruit de la citerne, la rencontre avec le capitaine Ortiz et la terre du Nord si isolée. Ne fallait-il pas expliquer à sa mère les règlements de fer de la garde, la redoute dénudée dans laquelle il se trouvait ? Non, même avec sa mère, il ne pouvait être sincère. Même à elle, il ne pouvait avouer les craintes obscures qui ne le laissaient pas en repos. À la maison, en ville, les pendules, l'une après l'autre, sonnaient maintenant en 10 heures, avec des timbres différents, faisant légèrement vibrer les verres dans les buffets. Venait le bruit d'un éclat de rire de l'autre côté de la rue, le son d'un piano. À travers une très étroite fenêtre, presque une meurtrière, Drogo, de l'endroit où il était assis, pouvait jeter un regard vers la plaine du Nord, vers cette terre désolée. Mais pour l'instant, on ne voyait que du noir. La plume grinçait un peu. Bien que la nuit triompha, que le vent commença à souffler entre les merlons, apportant de mystérieux messages, bien que à l'intérieur de la redoute s'amoncelassent d'épaisses ténèbres et que l'air fût humide et ingrat. En résumé, écrivait Giovanni Drogo, je suis très content et je vais bien. De 9 heures du soir à l'aube, à chaque demi, une cloche tintait dans la 4e redoute, à l'extrémité droite de la vallée, là où finissaient les remparts. Une petite cloche sonnait et aussitôt la dernière sentinelle appelait son camarade le plus voisin. De soldat en soldat, et ainsi de suite, jusqu'à l'extrémité opposée des remparts, de redoute en redoute, à travers le fort et aussi le long des bastions, l'appel courait dans la nuit. « Garde à vous ! Garde à vous !» Les sentinelles ne mettaient aucun enthousiasme dans ce cri. Elles le répétaient mécaniquement avec d'étranges timbres de voix. Giovanni Drogo, étendu tout habillé sur le petit lit, Giovanni Drogo, envahi par une torpeur grandissante, entendait à intervalles réguliers retentir ce cri dans le lointain. « Ah ou ? Ah ou ?» C'est là tout ce qui parvenait jusqu'à lui. Le cri devenait de plus en plus fort, passait au-dessus de lui avec le maximum d'intensité, s'éloignait de l'autre côté, diminuant peu à peu jusqu'à se taire. 2 minutes plus tard, le voilà qui revenait, renvoyé comme contre-épreuve par le premier fortin de gauche. Drogo l'entendait encore, qui s'approchait d'une allure lente et égale. Ah ou ? Ah ou ? Ce n'était que lorsque le cri était au-dessus de lui, répété par ses propres sentinelles, qu'il parvenait à distinguer les mots qui le composaient. Mais très vite, le garde-à-vous se fondait de nouveau en une sorte de plainte qui mourait finalement à la dernière sentinelle contre le piédestal de roche. Giovanni entendit quatre fois cet appel monter et quatre fois redescendre le chemin de ronde du fort jusqu'au point d'où il était parti. À la cinquième fois, Drogo n'eut conscience que d'une vague résonance qui le fit sursauter brièvement. Il lui vint à l'esprit qu'il n'était pas bien que l'officier chef de poste dormît. Le règlement le permettait à la condition que l'on ne se dévêtît point. Mais presque tous les jeunes officiers du fort, par une sorte de fierté élégante, restaient éveillés toute la nuit, lisant, fumant des cigares, se rendant même, abusivement, visite l'un à l'autre et jouant aux cartes. Tronc, à qui Giovanni avait tout à l'heure demandé des renseignements, lui avait fait comprendre que la bonne règle était de rester éveillé. Au lieu de cela, Giovanni Drogo, étendu sur le petit lit, hors du halo de la lampe à pétrole, fut, tandis qu'il songeait à sa vie, pris soudain par le sommeil. Et cependant, cette nuit-là, justement, oh, s'il l'avait su, peut-être n'eût-il pas eu envie de dormir. Cette nuit-là, justement, commençait pour lui l'irréparable fuite du temps. Jusqu'alors, il avait avancé avec l'insouciance de la première jeunesse, sur une route qui, quand on est enfant, semble infinie, où les années s'écoulent lentes et légères, si bien que nul ne s'aperçoit de leur fuite. On chemine placidement, regardant avec curiosité autour de soi. Il n'y a vraiment pas besoin de se hâter. Derrière vous, personne ne vous presse et personne ne vous attend. Vos camarades aussi avancent sans souci, s'arrêtant souvent pour jouer. Du seuil de leur maison, les grandes personnes vous font des signes amicaux et vous montrent l'horizon avec des sourires complices. De la sorte, le cœur commence à palpiter de désirs héroïques et tendres. On goûte l'espérance des choses merveilleuses qui vous attendent un peu plus loin. On ne les voit pas encore, non, mais il est sûr, absolument sûr, qu'un jour on les atteindra. Est-ce encore long ? Non, il suffit de traverser ce fleuve là-bas au fond, de franchir ces vertes collines. Ne serait-on pas par hasard déjà arrivé ? Ces arbres, ces prés, cette blanche maison ne sont-ils pas peut-être ce que nous cherchions ? Pendant quelques instants, on a l'impression que oui, et l'on voudrait s'y arrêter. Puis l'on entend dire que plus loin, c'est encore mieux. Et l'on se remet en route sans angoisse. De la sorte, on poursuit son chemin, plein d'espoir. Et les journées sont longues et tranquilles. Le soleil resplendit haut dans le ciel et semble disparaître à regret quand vient le soir. Mais à un certain point, presque instinctivement, on se retourne. Et l'on voit qu'un portail s'est refermé derrière nous, barrant le chemin de retour. Alors, on sent que quelque chose est changé. Le soleil ne semble plus immobile. Il se déplace rapidement. Hélas, on n'a pas le temps de le regarder, que déjà il se précipite vers les confins de l'horizon. On s'aperçoit que les nuages ne sont plus immobiles dans les golfs azurés du ciel, mais qu'ils fuient, se chevauchant l'un l'autre. Telle est leur hâte. On comprend que le temps passe et qu'il faudra bien qu'un jour la route prenne fin. À un certain moment, un lourd portail se ferme derrière nous. Il se ferme et est verrouillé avec la rapidité de l'éclair. Et l'on n'a pas le temps de revenir en arrière. Mais à ce moment-là, Giovanni Drogo dormait, ignorant, et dans son sommeil, il souriait, comme le font les enfants. Bien des jours passeront avant que Drogo ne comprenne ce qui lui est arrivé. Ce sera alors comme un réveil. Il regardera autour de lui, incrédule. Puis il entendra derrière lui un piétinement. Il verra les gens, réveillés avant lui, qui courront inquiets et qui le dépasseront pour arriver avant lui. Il entendra les pulsations du temps scander avec précipitation la vie. Aux fenêtres, ce ne seront plus de riantes figures qui se pencheront, mais des visages immobiles et indifférents. Et s'il leur demande combien de routes il reste encore à parcourir, on lui montrera bien encore d'un geste l'horizon, mais sans plus de bienveillance ni de gaieté. Cependant, il perdra de vue ses camarades, l'un demeuré en arrière, épuisé, un autre qui fuit et avant de lui et qui n'est plus maintenant qu'un point minuscule à l'horizon. Passé ce fleuve, diront les gens, il y a encore 10 kilomètres à faire et tu seras arrivé. Au lieu de cela, la route ne s'achève jamais. Les journées se font toujours plus courtes, les compagnons de voyage toujours plus rares. Aux fenêtres se tiennent des personnages apathiques et pâles qui hochent la tête. Jusqu'à ce que Drogo reste complètement seul et qu'à l'horizon apparaisse la ligne d'une mer démesurée, immobile, couleur de plomb. Désormais, il sera fatigué. Les maisons le long de la route auront presque toutes leurs fenêtres fermées et les rares personnes visibles lui répondront d'un geste désespéré. Ce qui était bon était en arrière, très en arrière. Et il est passé devant sans le savoir. Oh, il est trop tard désormais pour revenir sur ses pas. Derrière lui s'amplifie le grondement de la multitude qui le suit, poussée par la même illusion, mais encore invisible sur la route blanche et déserte. À présent, Giovanni Drogo dort à l'intérieur de la troisième redoute. Il rêve et il sourit. Pour la dernière fois viennent à lui dans la nuit les douces images d'un monde totalement heureux. Gare à lui s'il pouvait se voir lui-même, tel qu'il sera un jour là où finit la route, arrêté sur la rive de la mer de plomb, sous un ciel gris et uniforme, et sans une maison, sans un arbre, sans un homme alentour, sans même un brin d'herbe, et tout cela depuis des temps immémoriaux.
On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 4 de Le désert des Tartares.